Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de révolution cyber-industrielle avec Laurent Bloch. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Vladimir Collat.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Jean-Philippe Gaulier.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulloa. Alors Laurent, nous avons fait un épisode il n'y a pas si longtemps que ça ensemble, mais est-ce que tu voudrais bien quand même te présenter pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté cet épisode ?
Alors, je fais de l'informatique depuis 45 ans. Question cybersécurité, j'ai été RSSI de l'INSERM il y a une dizaine d'années. Ensuite, j'ai été DSI de l'Université Paris-Dauphine. Et maintenant, je me préoccupe surtout de cyberstratégie, cyberdéfense et de paysage mondial de la puissance informatique, de la puissance dans le monde cyber-industriel, en d'autres termes, dans le cyberespace.
Donc nous allons parler de ton livre « Révolution cyber-industrielle en France ». Alors, pourquoi ce terme « révolution cyber-industrielle » ?
Alors, je me base sur le concept de révolution industrielle qui a été développé par Bertrand Gilles dans un livre célèbre et malheureusement introuvable aujourd'hui. Alors, il discerne trois révolutions industrielles depuis le XVIIIe siècle. Il y a la révolution dont Adam Smith a été le théoricien à la fin du XVIIIe siècle. C'était la révolution de la chimie, la sidérurgie et la machine à vapeur. À la fin du XIXe, il y a la révolution de l'électricité industrielle et du moteur à combustion interne. Et depuis 1974, il y a la révolution du microprocesseur et du logiciel. Bon, l'informatique existait avant 1974, mais l'importance industrielle dans tous les domaines et le fait que ce soit des données industrielles qui dominent l'économie mondiale, c'est depuis le dernier quart du XXe siècle. Alors, avec l'Internet, c'est encore plus net. L'économie mondiale s'est réorganisée autour de l'Internet. C'est donc un domaine absolument central. Et les pays qui n'existent pas dans ce monde, qu'on peut appeler le cyberespace, sont des pays qui n'existeront plus. Alors, j'ai pris l'exemple dans l'introduction du bouquin de la comparaison avec la Chine. Au début du XIXe siècle, la Chine, c'était un tiers de la richesse mondiale, un tiers du PIB mondial. Et la Chine regardait de haut un petit pays comme l'Angleterre, qui a envoyé son ambassadeur en 1793 pour rééquilibrer les échanges, parce qu'il trouvait que la noblesse et la bourgeoisie anglaise consommaient un peu trop de porcelaine et de thé, et que d'eux, ils n'exportaient rien. Et le cabinet de l'empereur l'a regardé de haut en lui disant « Qu'est-ce que la Chine peut bien acheter un petit pays misérable comme l'Angleterre ?» Bon, on sait ce qui s'est passé au XIXe siècle, les deux guerres de l'opium, et à la fin du XIXe, la Chine était le pays le plus pauvre du monde, en quelque sorte. Hein. Bon, j'aurais pu aussi prendre l'exemple de l'Empire ottoman, qui a subi la même décadence. Enfin bon, le processus historique était un peu différent, mais le résultat était le même. Il faut bien voir que l'Europe, et plus particulièrement la France, nous sommes dans une situation comparable. C'est-à-dire en France, il y a une très faible prise de conscience, surtout parmi les élites. Et c'est ça qui est grave, hein. C'est les milieux dirigeants qui sont les plus aveugles au phénomène. Ils ne se rendent absolument pas compte de l'importance de ces choses. La France a des atouts considérables, et surtout si elle s'allie à ses partenaires européens, et on va pouvoir en discuter pendant l'émission, hein. Nous avons des atouts considérables sur le plan intellectuel, sur le plan industriel. Nous n'en avons pas conscience. Et d'un point de vue économique, je citerai Christian Saint-Étienne, prof d'économie au CNAM, hein. Nous sommes en juin 40, hein. C'est-à-dire nous sommes dans une situation absolument catastrophique. Le gouvernement déploie des efforts, d'ailleurs sans résultat, pour sauver des emplois de l'industrie du 19e siècle. Et en gros, ce qu'on est en train de faire en France, c'est de taxer les activités novatrices et créatrices pour subventionner des activités de toute façon condamnées. Donc on va directement à la catastrophe.
Et est-ce que là, tu nous parles de la taxation de télécom ? Est-ce que tu nous parles des questions qu'il y a eu autour d'Uber ? Ou est-ce que tu parles encore d'autre chose ?
Alors, Uber, c'est un bon exemple, hein. Uber a des défauts et toutes les critiques ont été faites. Hein. Il y a un côté passager clandestin. Hein. Simplement, Uber a mis en lumière l'archaïsme du système des taxis parisiens, qui est en grande partie dû au comportement du gouvernement, des pouvoirs publics, hein, qui ont laissé s'instaurer une situation économique absolument calamiteuse du point de vue des taxis et du point de vue des voyageurs en taxi, et un archaïsme complet. Donc Uber a importé des techniques modernes et ça a fait exploser le système. Simplement, je pense que Uber, bon, c'est peut-être juste un point de détail, d'une certaine façon, enfin, c'est un point particulier. Il faut voir les choses de façon plus générale. Dans le monde de la troisième révolution industrielle, de la révolution cyber-industrielle, du microprocesseur et du logiciel, quels sont les endroits où il faut le plus de valeur, où il y a le plus de valeur ajoutée et donc où il faut le plus investir? C'est des points importants. Ce sont le matériel, les microprocesseurs et le système d'exploitation, le logiciel fondamental. Nos gouvernants se focalisent sur les usages en croyant qu'on va s'en sortir avec les usages. Ben non, désolé, les usages, c'est rien. C'est rien, c'est pas rien, mais enfin, c'est pas là que se fait la valeur ajoutée, le plus de valeur ajoutée. Et alors, il y a un autre point très important pour cette nouvelle industrie, c'est qu'on passe d'une industrie de main-d'œuvre à une industrie de cerveau d'œuvre. Et donc là, le système éducatif devient absolument déterminant. Et là aussi, bon, alors on ne va pas se lancer dans un débat sur l'éducation nationale, mais il y aurait beaucoup à dire. Hein. Je vois par exemple le CNAM que nous connaissons bien, qui avait un vrai rôle de formation d'ingénieurs en informatique du niveau exactement comme il fallait. Bon, bah, le CNAM est en train d'abandonner ce rôle-là, je vois bien, j'y enseigne, tous les prétextes sont bons pour supprimer des cours, supprimer des heures.
Le CNAM fait toujours des cours du soir permettant aux gens de devenir ingénieurs informatiques tout en travaillant, ça n'a pas supprimé ça?
Alors, non, ça n'est pas supprimé, mais chaque année, on nous annonce qu'il va falloir réduire les horaires, supprimer des unités d'enseignement, on est sans arrêt menacé d'avoir des unités d'enseignement supprimées. En plus, les trucs qui sont bien vus par la direction du CNAM, c'est les formations d'événementiel, de relations publiques.
Oui, parce que ça rapporte de l'argent.
Voilà.
Mais bon, là, il y a un vrai rôle social très important, parce que le CNAM a permis à des tas de gens, dont certains que j'ai embauchés, d'autres que nous avons interviewés sur cette antenne, à devenir ingénieurs en informatique, alors que ça n'était pas du tout leur orientation en début de carrière, et des gens brillants dans la sécurité.
Absolument, et le CNAM, effectivement, c'est une excellente institution, et simplement, je constate jour après jour, hein, j'y donne des cours maintenant depuis une bonne quinzaine d'années, hein, que c'est de plus en plus difficile de réussir à maintenir cette activité.
Et c'est pas grave, non, ils seront remplacés par Simplon, École 42 et tous ceux qui se lancent maintenant.
Alors effectivement, l'école 42, alors j'étais très impressionné par l'école 42, j'y suis allé, je suis allé voir, j'ai regardé ce qui s'y passait. L'école 42, c'est vraiment quelque chose de... Alors je sais pas, il y a aussi, tout n'est pas parfait, il y a un côté passager clandestin si on veut, on peut critiquer certains aspects, mais en tout cas, l'école 42 pour former des informaticiens, je trouve que c'est un truc vraiment formidable. Et puis alors si on veut s'attaquer au problème de la radicalisation des... Enfin là, on change un peu de sujet, mais si on veut s'attaquer au problème des jeunes de banlieue qui sont sans avenir dans la société actuelle, des initiatives comme l'école 42, ça c'est excellent, hein, c'est ce genre de truc qu'il faut faire.
Pour en revenir aux trois sujets que tu évoquais juste avant, alors commençons peut-être par le premier, on parlait de processeurs et de systèmes d'exploitation. Est-ce que tu crois aujourd'hui que la France, alors on a vu des comptes comme OS Souverain sur Twitter qui ont apparu, est-ce que tu crois que la France a sa place dans un rang mondial sur ce sujet-là?
Oui, tout à fait. Et le problème, c'est que personne ne s'en rend compte. Alors, il ne s'agit pas d'OS Souverain ou de processeur souverain. Ça, c'est un peu une fausse façon, c'est pas la bonne façon de poser la question, je pense. Mais simplement, il faut avoir des capacités dans ce domaine. C'est ça qui est important. Alors, il y a une chose que personne ne sait. Des processeurs à l'état de l'art. Alors, j'entends par processeurs à l'état de l'art des processeurs dont la grille des transistors est à une longueur inférieure à 32 nanomètres. Hein. On va se fixer cette limite. Alors, il y a 6 entreprises mondiales qui fabriquent de tels processeurs. Ça correspond à une vingtaine d'usines dans le monde. C'est dans 6 pays dans le monde. On voit que c'est extrêmement concentré. Parmi ces pays, il y a la France. Tout le monde s'en fiche, personne ne le sait. Donc on peut les énumérer. Hein, les pays en question, il y a les États-Unis, il y a la Corée du Sud, il y a Taïwan, il y a Singapour, il y a l'Allemagne, il y a Israël et il y a la France. Voilà. On remarque qu'il n'y a ni la Chine ni le Japon.
C'est surprenant qu'il n'y ait plus le
Japon.
Oui,
bah c'est comme ça. Le Japon, le Japon pourrait revenir, mais pour l'instant, le Japon s'est retiré de la course à ce genre de produits. Alors c'est un problème, on pourra développer un peu éventuellement, c'est assez compliqué. C'est une histoire assez compliquée, l'histoire du Japon. C'est d'ailleurs une histoire de vraie guerre, hein, soit dit en passant. Il y a une usine en France qui produit tel microprocesseur. Elle est entre Grenoble et Chambéry, à Crolles. Et c'est la seule qui appartient à une entreprise européenne, ST Microelectronics, qui est une entreprise franco-italienne. Parce que l'autre usine européenne qui est à Dresde appartient à GlobalFoundries, qui a été rachetée par un fonds émirati. C'était la branche production d'AMD, fusionnée avec Chartered Electronics singapourien et rachetée par un fonds émirati ATIC. Donc la seule capacité de production de microprocesseurs à l'état de l'art européenne, c'est une entreprise qui est en France. C'est une entreprise qui fait bon an mal an 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est dans les 7-8 premiers industriels de l'électronique mondiale. Leur succès, c'est que ni le gouvernement, ni Thomson, qui était le propriétaire à l'origine, n'ont compris que c'était important. Donc ils s'en sont désintéressés. C'est pour ça que ça a réussi à survivre. Sinon, ils seraient morts comme les autres.
Pour tous nos amis start-upers, est-ce que tu peux donner un ordre d'idée de combien ça coûterait aujourd'hui, en partant de zéro, de créer une usine à l'état de l'art ?
Alors, bah oui, on peut prendre l'exemple de la dernière usine Samsung en Corée du Sud, 14 milliards de dollars.
Mais l'usine Intel aussi, 10 milliards de dollars.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut mettre sur la table.
Mais ST Microelectronics communique aussi ses investissements, et c'est peut-être un peu moins gros, mais c'est le même ordre de grandeur, c'est-à-dire c'est en milliards d'euros.
Oui, mais ils n'ont plus la capacité, la valorisation nécessaire pour faire l'investissement tout seul. Donc ils sont obligés de s'allier avec des gens pour faire ces investissements.
Alors en gros, ST Micro investit un peu moins d'un milliard d'euros par an. Ça leur suffit pour se maintenir à flot, mais pas pour suivre la course. Il leur faudrait le double pour suivre la course. Je pense...
Il faut quand même expliquer que c'est pour ces sommes-là, c'est pour graver aux finesses les plus petites actuelles.
Oui.
On peut faire des usines avec des coûts moindres, mais on n'arrivera pas au niveau des 32 nanos.
Oui, mais alors, si on veut être sur le marché mondial, il faut produire à cette finesse de gravure. Et maintenant, il faudra attaquer le 14... J'ai visité l'usine de Crolles, je vous conseille d'ailleurs à tous les auditeurs d'en faire autant. Ils ont des journées portes ouvertes en octobre ou novembre, à peu près à l'époque des vacances de la Toussaint. Ça vaut vraiment la peine, c'est absolument impressionnant. Alors les machines à fabriquer des microprocesseurs, ça s'appelle selon le vocabulaire des scanners. Oui, maintenant le terme à la mode, c'est scanner. Pour faire du 32 nano, c'est des machines qui coûtent entre 20 et 30 millions d'euros la pièce. Si on veut faire une chaîne de production pour des processeurs à une trentaine de couches, ce qui est le cas en général, ça veut dire qu'il faut déjà 30 machines de ce type-là. Donc 30 fois 30 millions, bon, vous faites la multiplication, on voit qu'on ne s'en tire pas beaucoup moins d'un milliard d'euros. Et ça, c'est les scanners 32 nano et les scanners... 7 nanos qui sont en prototype actuellement, c'est plutôt vers les 100 millions d'euros la pièce. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qui produit ces scanners. Il y a trois entreprises au monde qui produisent ces scanners. Il y a ASML qui est néerlandais et il y a Nikon et Canon au Japon. Et ASML a les deux tiers du marché mondial. Et il n'y a plus de producteurs américains. Enfin, Intel produit un peu pour ses propres besoins, mais ils ne sont pas dans le marché.
Est-ce que, alors tu nous dis Canon et Nikon, avant de passer sur l'autre sujet, c'est intéressant. Canon et Nikon sont de grands producteurs d'appareils photo. Est-ce que finalement c'est lié ?
Oui, bien sûr. Oui, parce que les procédés de gravure de microprocesseurs, c'est des procédés de photolithographie qui reposent sur de l'optique. Alors, par exemple, les scanners sont fabriqués avec des objectifs. Alors il faut voir les photos de ces objectifs. C'est des objectifs qui font pas loin de 2 mètres de haut, qui pèsent 700 ou 800 kilos et qui coûtent de l'ordre d'1 million d'euros pièce. Et donc, alors, les trois producteurs mondiaux, c'est donc Canon et Nikon, fabriquent leurs propres optiques. Et en Europe, on a Zeiss. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a toute la chaîne de production pour les microprocesseurs, puisque Zeiss, allemand, fabrique les optiques. ASML, néerlandais, fabrique les scanners. Et ST Micro fabrique les processeurs. Hein.
Ça serait donc réellement une catastrophe si aujourd'hui, par exemple, ces grands acteurs de la photographie, on en a connu d'autres par le passé, venaient à disparaître.
Absolument, ah oui. Alors, ces capacités... alors, ASML, par exemple, bon, Intel vient de prendre 15% au capital d'ASML. Bien sûr, c'est très important, parce que ça veut dire que actuellement, alors ASML, c'est aussi une boîte de... Le chiffre d'affaires, c'est le même ordre de grandeur, 6-7 milliards d'euros par an. Hein. Mais une OPA hostile sur ASML, ce serait une catastrophe. Enfin, tout ça pour dire que dans le domaine du matériel, l'Europe a actuellement tous les atouts nécessaires pour avoir une position industrielle qui maintient sa souveraineté, mais elle peut aussi le perdre du jour au lendemain. Bon, bien sûr, les Chinois n'ont pas la capacité de production de ces microprocesseurs parce que les licences d'exportation des matériels de type scanner, ça ne se donne pas comme ça. Et la Chine n'y a pas droit. Mais les Chinois, il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils soient en train de travailler, essayer d'en faire. Et s'ils travaillent à ça, on connaît les Chinois, ils vont y arriver.
Oui, ce qui est déjà le cas aujourd'hui avec le plus puissant superordinateur du monde qui est chinois et qui apparemment tourne avec des processeurs chinois. Donc il vient d'où, lui ?
Alors, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas la finesse de gravure nécessaire pour avoir les processeurs, ils ont compensé le fait d'avoir des processeurs. Les Chinois savent produire à 45 nanomètres, hein, d'après mes données, hein, parce que bien sûr ces choses-là ne sont pas toujours publiques. D'après ce que j'ai pu récupérer comme information, ils produisent à 45 nanomètres. Et ils compensent la faiblesse relative de leur processeur individuel par des systèmes très performants. Ils font des chips multiprocesseurs avec, je crois, 256 cores par processeur qui leur permettent d'avoir d'excellentes performances. Bon, alors cela dit, ça c'est un effet d'affichage, hein, les processeurs haute performance. Cela dit, c'est un tout petit marché, hein, c'est un marché mondial de entre 15 et 20 milliards de dollars. Alors, Bull essaye de se placer auprès de l'Union européenne pour se faire subventionner des projets dans ce domaine. Mais à mon avis, bon, j'ai pas dit que c'était totalement dépourvu d'intérêt. Hein. Il y a des domaines, notamment l'océanographie, la sismographie, des choses comme ça, la recherche pétrolière, qui ont besoin de ce type de matériel. Mais c'est pas le cœur du marché.
Est-ce qu'avec le machine learning, on va pas voir apparaître, on s'écarte un petit peu, mais on va pas voir apparaître ce genre de demande, justement, de demande en calcul forte?
Bah, c'est déjà le cas avec Microsoft qui a annoncé faire des FPGA pour son cloud Azure. Alors, je crois que c'était pour du machine learning et aussi pour du filtrage réseau, mais ils sont vraiment déportés.
Pas pour la partie fuzzing aussi des applications et audit des applications, ils ont une offre comme ça qui sont en train de sortir, je crois.
Alors, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'interroger plusieurs industriels du domaine. Alors effectivement, ils croient. Alors les FPGA, ça c'est un vrai truc. Les gens qui bossent dans ce domaine pensent effectivement qu'il y a des choses à faire dans le domaine du FPGA. Dont d'ailleurs l'Europe est absente, soit dit en passant, hein, c'est une lacune. Et puis, pour ce qui est d'avoir de grandes puissances de calcul, on croit beaucoup plus dans les grappes d'ordinateurs ordinaires, hein, comme ce que font Google, Amazon ou des gens comme ça. Le fait d'agréger en d'immenses clusters des grappes d'ordinateurs bas de gamme est bien plus intéressant et bien plus vite mis en œuvre que d'avoir des processeurs spécialisés. Parce que le problème des ordinateurs spécialisés, j'ai vécu ça à une époque de ma vie où c'était assez à la mode, le temps qu'on programme ces trucs-là, qui demandent une programmation spécifique, le processeur lambda a déjà rattrapé le gap de performance. Hein, donc,
c'était le cas de la PS3, entre autres, qui était très difficile à programmer.
PS2, oui. Avec ses coprocesseurs vectoriels.
Bah, la PS3 était aussi dans cet usage.
Oui, voilà, tout ça.
Mais en fait, c'est simplement, si tu arrives à découper ton problème pour pouvoir le répartir les calculs, si tu ne peux pas le faire, tu es obligé de calculer sur...
Voilà, alors tous les problèmes qui reposent sur de la mécanique des fluides au sens large, hein, c'est-à-dire la sismographie, l'océanographie, la météo, là on a besoin, en gros ça repose sur l'inversion de grosses matrices, et donc là les grappes pour l'instant, dans l'état actuel du logiciel, les grappes d'ordinateur lambda ne donnent pas les résultats espérés. Donc c'est le domaine du marché de 15 à 20 milliards de dollars annuels du calcul haute performance, qui est celui de Tianwei, ou enfin où les Chinois et les Japonais sont très bons, hein, mais aussi les Américains. Et il y a aussi une capacité européenne chez Bull Atos. Hein, mais pour tous les problèmes, je vois pour la biologie moléculaire, qui est le domaine que je connais un peu, les recherches dans les banques de séquences... on découpe la banque en sous-banques, en autant de sous-banques qu'on veut, et c'est de la recherche linéaire, hein, donc ça se découpe assez bien entre des ordinateurs ordinaires. Par contre, dès qu'on veut faire de la modélisation moléculaire, là, ça commence à devenir intéressant à avoir des supercalculateurs. Mais c'est de loin pas la partie principale.
Il va peut-être falloir qu'on ressuscite Digital Equipment pour avoir des grappes de calcul correctes au niveau CPU et mémoire, alors.
Ah oui, Digital Equipment faisait ça très bien, mais...
Sun le faisait aussi avec ses processeurs Octane. Il livrait un conteneur sur ton parking et des processeurs 128 cœurs.
Oui, oui, oui. Alors c'était un peu comme les Chinois d'ailleurs. Sun compensait les mauvaises performances des Spark, qui sont des processeurs mal foutus, en organisant très bien des multiprocesseurs et en faisant très bien l'architecture des microprocesseurs, des multiprocesseurs.
Si on passe un petit peu sur la partie développement, je crois que tu cites entre autres Dassault Systèmes dans ton livre,
oui.
Comme un des rares leaders français qu'on a dans le développement. Tu parlais de système d'exploitation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta vision là-dessus ?
On va parler de Mandrake ou pas ?
Alors, système d'exploitation, ce qui est un peu dramatique, il y a encore une vingtaine d'années, il y avait des compétences françaises et européennes en système d'exploitation. Il y avait chez Bull, hein, on peut ne pas être enthousiasmé par GECOS 7, mais enfin, c'était une vraie équipe d'ingénieurs français qui avait développé un système d'exploitation.
Il y a eu Corus.
Corus. Oui, mais Corus, ça a été racheté par Sun. L'ancienne équipe Corus essaye de relancer quelque chose. Enfin, ça, c'est quand même de la PME. Ceci dit, Corus s'est bien vendu chez les télécommunicants, hein, à une époque. Hein. Mais enfin, je ne sais pas si ça a beaucoup de présent et encore moins d'avenir. Hein. GECOS 7, tout ça, c'est du passé. Et en plus, ils avaient fait d'assez mauvais choix, finalement. Ils avaient hésité un moment entre avoir une machine virtuelle sous Linux ou sous Windows. Ils ont choisi Windows. À mon avis, c'était parce qu'il y avait de plus... De plus prometteur. Mais enfin bon, de toute façon, ça n'existe plus.
Hein. Nicolas citait juste avant Mandrake, et je pense que tu ne rentres pas Mandrake dans un système d'exploitation au sens compétence cœur, puisque Mandrake, c'était simplement un assemblage de type GNU d'un ensemble de logiciels.
Oui, mais alors, quand tu fais une distro Linux, t'es quand même obligé d'avoir des compétences, parce qu'il faut backporter les patchs. Enfin, si tu veux de la stabilité sur ton noyau, t'es obligé d'avoir une équipe qui comprend.
Alors, j'ai regardé les statistiques des contributeurs au noyau Linux. Alors, il y a un site qui fait ça très bien. Hein. Alors, la France et l'Europe en général, la France n'est pas si mal placée que ça. Hein. Il y a quand même pas mal de contributions. Bon, c'est pas... on pourrait souhaiter que ce soit mieux, mais il y a pas mal de contributeurs français au noyau Linux. Et si on regarde au niveau européen, si on ajoute les Allemands... Alors, les Allemands, ils ont SUSE qui est très actif. Et SUSE a beaucoup externalisé en République tchèque et en Slovaquie. Il faut savoir que la Slovaquie a une tradition informatique non négligeable, notamment l'université de Banská Bystrica, qui était un des noyaux de développement de l'Internet en Europe, même du temps du régime socialiste en Tchécoslovaquie. Et donc voilà, là aussi, il y a des compétences qui sont très dispersées, très atomisées. Il y a des gens très bons. Il y a c'est Delpy, le type qui a fait...
Mimikatz.
Oui, c'est... C'est quand même... Et puis celui qui a fait le truc de verticalisation, là...
Oui, Bellard, Fabrice Bellard.
Oui, Fabrice
lui,
Bellard.
Bon. Lui, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, il est bon.
Oui, donc on voit qu'on a des gens qui sont vraiment des vrais noms dans le domaine. Hein. Le problème, c'est que tout le monde s'en fiche. Et alors, au niveau politique, personne ne sait même que ça existe.
Je croyais qu'il y avait eu un rapport Tariq Krim sur les 100 Français qui comptent... Tu te souviens des noms, ça te disait quelque chose
c'est oui, j'ai lu.
Il y avait Rudolf Schitz dedans, je crois. Et Mathieu Suif. Fascinait.
Non, c'était des start-upers,
c'était des vrais développeurs. Alors, il y avait Rémi Carr qui était auteur principal de XT2, quand même. Hein. Il mettait Louis Poussin aussi, quand même. Voilà, ça date pas d'hier.
Je ne sais pas s'il n'y avait pas le développeur principal de VLC aussi. Hein.
Oui, voilà. Alors, Tariq Krim, alors j'avais rencontré Tariq Krim, j'avais parlé avec lui. Alors, il était encore plus pessimiste que moi. Hein. Mais effectivement, il avait fait son analyse était excellente.
C'est pas lui d'ailleurs qui avait développé Jolly Cloud, qui est un système d'exploitation, un assemblage de Linux français qu'il a revendu à Dassault Systèmes après.
Oui. Alors effectivement, Dassault Systèmes, c'est un des points forts dans le domaine français. C'est des gens qui ont une réputation mondiale. Alors là aussi, je disais tout à l'heure que STMicro avait réussi. Parce que ni le gouvernement français, ni Thomson n'avaient compris que c'était important. Dassault Systèmes, ils ont très bien réussi parce que personne n'avait compris qu'ils étaient français. Parce que quand ils ont commencé à lancer Katia, c'était vendu par IBM. Et donc les gens croyaient que c'était IBM qui l'avait fait. Donc Boeing l'a acheté. Boeing voulait l'acheter parce qu'il ne voulait pas avoir le même fournisseur de logiciels que Airbus.
Et ça fait partie des rares sociétés qui ont un vrai process d'assurance qualité je parle d'ingénierie qui tarde un petit peu, qui est présente depuis très longtemps, donc pas les compagnies web 2.0, etc. C'est une vraie société qui a un vrai process d'assurance qualité sur ses développements.
Oui, et qui a une vraie politique de diversification, parce qu'ils se sont rendus compte, Katia, il y a deux choses dans Katia. Il y a d'une part la partie dessin mécanique, ça c'est vraiment très spécifique à l'aéronautique. Et puis il y a la partie de la base de données des morceaux de l'avion. Et alors ils se sont dit que la base des données des morceaux de l'avion, alors pour ce que je connais, ils se sont dit que finalement ce système de base de données qui rassemble des morceaux qu'on va ensuite bricoler ensemble, ça pourrait aussi bien marcher pour des molécules vivantes. Et donc Dassault Systèmes a une politique dans le domaine de la biologie moléculaire, du logiciel biologique. Ils sont maintenant le leader mondial du logiciel biologique parce qu'ils ont racheté Axelris. Alors, ils sont leader mondial en ayant racheté une boîte qui est aux US. Hein. C'est eux le leader mondial du logiciel de biologie moléculaire. Hein. Donc, et ce système de base de données, ils peuvent l'étendre. Moi, pour ce que je connais, c'est plutôt la biologie, mais il y a d'autres domaines auxquels ils pensent l'appliquer. Hein.
Donc aujourd'hui, on a des gens qui savent faire des puces informatiques.
Oui.
On a des gens qui savent développer.
Oui.
Est-ce qu'on a des compétences au niveau cloud, hébergement, etc. Il me semble que tu étais à un meeting il n'y a pas très longtemps où une secrétaire d'État a fait son apparition.
Oui, j'étais au OVH Summit. Bon, moi j'aime bien OVH. Je suis leur client depuis longtemps. J'ai toujours été...
Il y a un vrai écosystème, il n'y a pas que OVH.
Oui, bien sûr.
Il y a Dassault, c'est sa société, bien sûr.
Il y a Iliad.
Il y a Iliad. Donc, en plus de ça, on a un vrai écosystème en France en matière d'hébergement.
Absolument. On est avantagé en France pour deux raisons. Alors, une des choses qui nous met bien pour les data centers, pour les centres de données, c'est le bas coût de l'énergie. On est très avantagé par rapport aux Allemands ou aux Britanniques hein, par l'électricité bon marché grâce à notre industrie nucléaire.
Et électricité sans carbone.
Mais alors Laurent, qu'est-ce qui manque ?
La conscience. C'est toujours le côté intellectuel qui pêche. Hein. Pourquoi est-ce que les Chinois et les Ottomans sont tombés dans le trou ? Dont les Chinois d'ailleurs sont en train de nous prouver qu'on arrive à ressortir, mais ça demande... au prix de combien de dizaines de millions de morts dans des guerres épouvantables, hein. Il manque la conscience, c'est-à-dire les Chinois n'ont pas compris au 19e siècle. Il y a un moment où les Japonais ont compris, au prix d'une guerre civile. Hein, l'empereur Meiji a fait massacrer les samouraïs qui étaient révoltés contre son projet de modernisation de la société. Hein. Oui, ce qu'il faut voir, c'est qu'une révolution industrielle, on ne l'a pas dit, ça nécessite un bouleversement complet des institutions politiques, du système éducatif, du système juridique. Bon, on voit bien que le droit n'est plus adapté du tout, notre droit, ne serait-ce que sur la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, sur le droit des contrats, sur le droit du travail. On voit bien, là actuellement, je vois le projet de loi sur le travail, c'est très gentil, mais enfin, on est en train de parler des ouvriers de la sidérurgie du 19e siècle. Bon, alors, pour faire des choses comme ça, il faut une conscience, il faut un projet. On sait que ça va, dans un premier temps, il n'y aura pas que des gagnants. Hein. Bien sûr, les gens qui sont très ancrés dans l'ancienne économie risquent de voir leurs conditions de vie ne pas être améliorées par le passage à la nouvelle économie. Simplement, c'est inéluctable. Alors, ce qu'il faut trouver, c'est que ce soit le moins douloureux possible. Parce que, bon, rappelons-nous, la première révolution industrielle, ça s'est accompagné de la révolution française et des guerres napoléoniennes. Ça n'a pas été une partie de plaisir. La seconde révolution industrielle, eh bien, il y a eu la révolution bolchevique, le fascisme et le nazisme. Hein. Bon, tout ça, c'est quand même pas...
C'est tout un programme que tu nous vends pour passer à l'ère d'Internet.
Alors... Je vous signale que si on regarde un peu ailleurs dans le monde, je vous signale qu'il y a des événements pas très rigolos qui se déroulent un peu partout, et on n'est pas à l'abri de ça. Mais je vois en France, la société française va droit dans le mur actuellement, parce qu'on ne prend aucune des mesures qu'il faudrait. Et si on écoute les débats politiques actuels, hein, à droite comme à gauche, hein, c'est pas, y a pas d'exclusivité, hein, on voit des débats qui portent sur des choses du passé.
Après, là-dessus, si tu regardes dans les 10 premières capitalisations boursières dans le monde, tu as quand même Microsoft, Google Alphabet, Facebook, Amazon et Apple. Bon, certains vendent un peu du matériel, mais à la base, c'est surtout du logiciel et très haut niveau.
Alors,
par rapport à du système d'exploitation, des choses comme ça.
Alors, on voit bien, on peut prendre l'exemple de Google, que certains autour de cette table connaissent sans doute mieux que moi. Mais Google s'est lancé plutôt par le moteur de recherche. Mais actuellement, Google est quand même, alors je ne sais pas si on peut dire principalement, mais quand même un industriel du système d'exploitation. Enfin, le système d'exploitation le plus répandu au monde, c'est Android.
Vlad, si tu reprends tes noms, Apple... Ils ont quand même un ou deux systèmes d'exploitation. Google, pareil. Microsoft aussi.
Qui viennent de sortir leurs chiffres, font beaucoup plus d'argent aujourd'hui avec le cloud et Office 365 qu'avec Windows.
Mais ils peuvent le faire parce qu'ils ont l'ingénierie et le soubassement qui permet d'eux.
Oui.
Et quand tu prends Amazon, bon, ils ont certes pas forcément leur système d'exploitation. Par contre, ce sont des gens qui se sont dit, tiens, TCP/IP, c'est trop lent pour faire mes sauvegardes ou le SAN, ça me va pas. Je vais recréer un protocole complet. Donc, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises, en tout cas que je connaisse, qui me disent « Oh, ben, je me suis levé ce matin et puis j'ai refait le protocole de sauvegarde. »
Pour en revenir à ton livre, pourquoi est-ce que c'est si important de maîtriser des puces et un operating system ?
Eh bien, parce que sinon, on sera un pays sous-développé.
Oui, explique le cheminement.
Alors, actuellement, toute l'industrie mondiale est fondée sur l'informatique. Là où se crée la valeur ajoutée dans le système économique mondial, c'est... soit dans l'informatique, soit grâce à l'informatique, soit autour de l'informatique. Alors bien sûr, on continuera à fabriquer des voitures. Hein. Bon, il faut regarder ce qu'était l'agriculture. L'agriculture, en 1789, c'était 75% de la population active d'un pays comme la France. Maintenant, c'est 2,5%, peut-être même moins. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'agriculture. Ça veut dire que l'agriculture est industrialisée. Bon, ça va être la même chose pour l'industrie. L'automobile, on continuera à avoir des automobiles. Simplement, ces automobiles, il suffit de regarder les gens de Tesla. Hein. Cette automobile, ce sera essentiellement du logiciel. Voilà, il y aura un peu de plastique, de moins en moins de tôle, un peu d'alu quand même, du caoutchouc pour les pneus peut-être, et encore. Peut-être que ce sera des systèmes sans contact. Bref. De plus en plus, dans le coût d'une automobile, ce sera le coût d'une part du logiciel qui l'a fait marcher. Actuellement, une automobile contemporaine, c'est entre 100 et 150 contrôleurs qui sont en fait des ordinateurs, avec chacun leur système d'exploitation, etc. Donc il y a du matériel informatique, il y a du logiciel. Il y a le logiciel de contrôle de production, il y a le logiciel qui sert à la commercialiser, il y a le logiciel qui sert à gérer les commandes, à produire la voiture avec la couleur de carrosserie et les accoudoirs qui vont bien.
Mais là, tu viens de citer 4 ou 5 fois logiciel. Là, je n'ai pas entendu puce ou operating system.
Ah bah si, j'ai dit qu'il y avait 100 à 150 processeurs dans la voiture.
Oui, c'est vrai.
Bon, hein. Et je vois, bon, bah, j'ai une voiture hybride. Bon, bah, c'est plus une voiture, c'est un ordinateur à roulettes.
Et pourquoi ne pourrait-on pas se spécialiser justement dans le logiciel ?
Alors, ben, oui, mais enfin, pour être bon dans le logiciel, il faut aussi avoir la main sur le matériel d'une certaine façon. Enfin, l'idée de se spécialiser dans une niche qui semble demander moins d'investissement, c'est comme si à l'époque de l'apparition de la généralisation de l'automobile avec la Ford T et tout ça, on avait dit on va se spécialiser dans les essuie-glaces. Bon.
J'en reviens à ton troisième point que tu as abordé très brièvement tout à l'heure. Tu l'as cité en tout cas. L'éducation.
Oui.
Parce alors que là, c'est peut-être le point central, le moteur qui va prendre le plus de temps.
Bon. L'éducation est bien sûr vitale parce qu'on a bien compris que la capacité à fabriquer des processeurs ou à fabriquer des logiciels, c'est la compétence. Hein. Quand on visite l'usine de Kroll, pour revenir à ça, dans l'usine de Kroll, il y a 6000 personnes qui travaillent. Ces personnes, c'est au minimum technicien supérieur et pour la majorité des ingénieurs, en fait. ST Micro, dans la zone, emploie 8000 personnes. Et avec les sous-traitants, dans toute la région Rhône-Alpes, c'est 35 000 personnes. C'est le premier exportateur et le second employeur de la région Rhône-Alpes. Hein. Bon, alors, ces gens-là, il faut les former. Bon, alors, actuellement, il semble que les élèves des lycées français préfèrent faire des STAPS ou des trucs comme ça, bon, ben bah, voilà, mais enfin, je ne sais pas quelles sont les perspectives d'emploi là-dedans.
C'est les profs de sport, pour ceux qui ne connaissent pas.
bon, il faudra introduire l'informatique à l'école. Bon, si on veut savoir ce que c'est qu'un programme sérieux d'informatique dans l'enseignement secondaire, il n'y a qu'à prendre le programme des Israéliens. Alors, oui.
Oui, des Vietnamiens, apparemment.
Alors, les Vietnamiens, je connais moins. Il se trouve que les Israéliens, j'ai trouvé une publi où ils décrivent ça en détail. Bon, ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. On sait très bien en France que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Il y a des tas de gens qui ont écrit des tas de trucs. Depuis Jacques Arsac dans les années 70, tout le monde a toujours dit ce qu'il fallait faire.
Alors, quand est-ce qu'on le fait ?
Alors, d'abord, il y a un premier obstacle. Il y a une corporation qui est formellement opposée à ça. Les syndicats de l'éducation nationale ne sont pas moteurs dans ce domaine-là. Quoi. Le système des concours de l'éducation nationale est extrêmement rigide. Et toucher quoi que ce soit à la répartition des forces entre les différentes disciplines, c'est un obstacle quasiment insurmontable. Je participe à un groupe de travail. Alors, les expériences de développement de l'enseignement de l'informatique dans l'enseignement secondaire, c'est pas d'aujourd'hui, ça a commencé au début des années 70. Hein. Il y a eu les premières expériences au début de l'année 70. D'ailleurs, on peut remarquer, alors, ça a toujours été instauré par des gouvernements de droite, et c'est toujours des gouvernements de gauche qui les ont supprimés. Enfin, bon, c'est une simple constatation. Celui qui allait le plus loin dans le développement de ça, c'était Bayrou, quand il était ministre de l'Éducation nationale. Bon, c'est très bien ce qu'il faut faire. Hein. Il faut l'informatique, le groupe de travail a finalement produit un document qui établit que l'informatique, ça repose sur 4 concepts fondamentaux, qui sont le concept d'algorithme, le concept de machine, le concept de langage et le concept d'information. Et l'enseignement de l'informatique dans le secondaire et peut-être même dès le primaire doit reposer sur l'acquisition équilibrée de ces 4 concepts par des professeurs qui soient des professeurs d'informatique et pas des professeurs de toute autre chose qui ferait quelques
pas des professeurs de gestion qui auraient passé le CAPES.
Voilà,
qui
alors faire par exemple, on vient de créer un CAPES maths avec option informatique. Bon, ça, c'est très mauvais. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire parce que ça va être le prétexte pour ne rien faire d'autre. Et de toute façon, ça ne marchera pas parce que les profs de maths, ben, c'est des profs de maths, ce n'est pas des profs d'informatique. Et ce n'est pas parce qu'on leur aura donné quelques dizaines d'heures. Enfin, pour devenir prof d'informatique, il faut au moins avoir fait un master d'informatique. C'est-à-dire, c'est quand même 5 ans d'études plein temps en informatique.
Mais il n'y a pas de CAPES aujourd'hui d'informatique
non.
En France. Hein, c'est un CAPES d'économie.
De mathématiques. Avec
mathématiques
option,
récemment. D'accord, parce qu'avant, c'était économie de mémoire ou gestion. Et on pouvait devenir ainsi prof d'informatique.
Et puis alors, il y avait
prof d'informatique, il fallait faire de la gestion, c'est une blague ?
Oui, bah, c'était de l'informatique de gestion, cher ami.
Oui, alors ce n'était pas vraiment des cours d'informatique. Hein. Alors,
c'est du COBOL quand même, non ?
Tout ça, c'est rien du tout. Hein. C'est la vraie introduction de l'informatique, c'est d'enseigner donc ces quatre concepts fondamentaux, avec notamment des cours de programmation, des cours aussi d'initiation au réseau et au système d'exploitation. Enfin, peut-être pas d'entrer dans les détails, mais enfin, au moins d'avoir les notions fondamentales dans ces domaines. Hein. Et sinon, on ne peut pas dire qu'on enseigne l'informatique. Enfin, donc les Israéliens le font, les Vietnamiens le font, à Singapour ils le font. Les Britanniques, alors les Britanniques avaient un cursus bidon, comme le nôtre, hein, où on enseignait les usages, on apprenait avec des tablettes à naviguer intelligemment sur le web et autres lubies. Ils ont nommé un comité d'experts qui a travaillé sérieusement, qui a dit que tout ça c'était entièrement factice, qu'il fallait arrêter tout ça. Et maintenant, dans l'enseignement secondaire anglais, hein, parce que c'est pas britannique, c'est anglais, parce que l'Écosse c'est autre chose. Hein. Tout le monde au lycée fait ses 3 heures d'informatique par semaine dans toutes les sections, avec des programmes adaptés selon les sections plus littéraires, plus scientifiques. Hein. Moi, j'enseigne la programmation à des biologistes. Je sais bien qu'il ne faut pas leur prendre les mêmes exemples que pour des matheux. Il faut leur prendre des exemples avec pas de maths. Ceci dit, c'est très possible. Et donc, en Angleterre, maintenant, il y aura une épreuve d'informatique au bac qui sera une épreuve de vraie informatique, corrigée par des vrais professeurs d'informatique. Alors, on dit toujours « Ah oui, mais il n'y a pas d'enseignants ». Les enseignants, si on voulait vraiment s'en donner la peine, je suis sûr qu'il y a plein d'ingénieurs informatiques qui arrivent à un certain stade de leur carrière, seraient très contents, moyennant une formation en pédagogie, de se reconvertir à l'enseignement de l'informatique dans les lycées et qui pourrait boucher les lacunes pendant un certain temps. Enfin, si on voulait le faire, je pense que ce serait possible. Simplement, on ne veut pas le faire, on se réfugie derrière des...
Mais attends, mais il n'y a pas une épreuve d'informatique au brevet des collèges maintenant avec de l'algorithmie ? J'avais vu ça récemment...
Tu parles pas du visa internet
et, hein. Et du SCOL
Je sais pas, alors il y a toujours des choses un peu ponctuelles, un peu partielles ici ou là, c'est comme en classe prépa. Il y a eu une époque où il y a eu de la programmation et puis on l'a supprimée. Il semblerait qu'on se décide à la rajouter. Mais tout ça, ça ne... Alors donc on rencontre comme ça au hasard des gens, j'en ai quelquefois parmi mes étudiants. Ah voilà, ils ont... À l'école primaire, ils ont fait 2 ans de basique, il y a 30 ans. Ok.
Du logo.
Alors, en conclusion, Laurent, on a tous les atouts ou pas ?
Eh bien, on pourrait les avoir si on en avait conscience. Le principal obstacle, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et surtout, nos élites dirigeantes, que ce soit les élites universitaires et intellectuelles, les élites économiques et les élites politiques, n'en ont pas conscience ou ne veulent pas en avoir conscience. Ce serait encore dans le monde économique que ce serait le... Parce que quand même, dans les entreprises, il y a des gens qui commencent à se poser des problèmes, ne serait-ce que parce qu'ils ont besoin de recruter. Ils voient bien que ça... si on veut recruter un ingénieur informaticien aujourd'hui, c'est pas facile, hein, parce que l'offre est supérieure à la demande, enfin, ou l'inverse. Enfin, et les entreprises qui cherchent à rester dans le coup au niveau mondial... et qui ne veulent pas. Alors, certaines entreprises se sentirent très bien, ils externalisent toute leur recherche et développement aux US ou dans des pays comme ça. Mais du coup, l'Europe et la France perdent si on fait ça.
Et on peut retrouver donc tout cela dans un livre que tu as écrit qui s'appelle « Révolution cyber-industrielle en France ».
Oui.
Chez un éditeur qui n'est pas ton éditeur habituel, si je puis dire.
Alors c'était la première fois que j'écrivais pour cet éditeur qui s'appelle Economica, qui est un éditeur qui a un catalogue intéressant, dont le patron a une personnalité passionnante d'ailleurs, enfin c'est pas le lieu d'en parler ici. Et donc c'était Olivier Kempf qui m'avait sollicité pour écrire ce livre. Et j'aborde ces sujets, puis je tâche de donner des données. Alors d'une part des données sur... Il y aurait eu l'histoire de la guerre industrielle nippo-américaine des années 80-90, qui était une vraie guerre, et qui, s'il n'y avait pas eu la dissuasion nucléaire et la guerre froide, aurait sans doute débouché sur une guerre avec des vraies armes et des vrais morts. Là, c'était uniquement une guerre économique, monétaire et juridique, qui s'est terminé par la défaite en rase campagne des Japonais et incidemment des Allemands. Et ça a entraîné une crise économique au Japon, dont le Japon n'est toujours pas relevé, hein, ce qui prouve qu'il y a quand même vraiment des conséquences réelles. Hein, la stagnation de l'économie japonaise, qui dure jusqu'à aujourd'hui, est la conséquence des accords du Plaza de 1985. Enfin, ça nous entraînerait quand même un peu loin, et c'est un peu évoqué dans le bouquin. Et je donne des pointeurs sur des sources qui décrivent ça plus en détail.
Effectivement, une des particularités du bouquin, c'est que c'est un document scientifique avec énormément de pointeurs tout au long, hein. C'est 176 pages de recherche et de pointeurs, ça se lit très bien, mais c'est très complet et très dense.
Voilà, et alors sur mon site, il y a la bibliographie complète, parce que oui, l'éditeur m'a dit, bon, quand il a vu la taille de la biblio, il s'est dit, bon, ça va faire trop de pages, on va mettre uniquement les trucs principaux dans le livre imprimé, et puis le détail de la biblio, tu mets ça sur ton site.
Et un dernier clin d'œil peut-être sur le bouquin, c'est la géode du Futuroscope.
Oui, 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 absolument. Alors, je n'ai pas choisi parce que c'est le Futuroscope, parce que le Futuroscope... Alors, cela dit, le Futuroscope n'est pas une si mauvaise image que ça du futur. Et d'autre part, ce bâtiment qu'on voit sur la couverture, c'est un peu la métaphore à la fois d'un clavier d'ordinateur et d'une souris, si on veut un peu stylisé. Donc, c'est une évocation de l'informatique dans l'architecture.
Et le ciel gris qu'il y a derrière, c'est l'espoir de la France ça, dans l'espace numérique.
C'est le temps qu'il faisait où la photo a été prise, ça, désolé.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, Laurent, à part dans ce livre?
Bah, sur mon site, laurentbloch.org, en un seul mot.
Et puis, vous pouvez également écouter l'épisode consacré à la 5e édition du livre « Sécurité informatique ».
Absolument,
dont Laurent est l'un des co-auteurs. Bon, eh bien, Laurent, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Ah, ben de rien, c'est moi qui vous remercie.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.